RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC. Laetitia Barlerin qui est toute bleu clair ce matin, superbe, un peu comme le ciel que nous promet Christine Peña. Bon, il fait pas encore assez jour, mais je pense que voilà, on peut lui faire confiance. Hein. Et vous savez quoi, Laetitia, un joli pull bleu clair et son smartphone est associé.
Ça, c'est le chic.
À son pull bleu clair.
Eh oui, c'est voilà. Le chic à la française.
C'est le chic de Miss Veto, ça, les amis. Eh oui, Miss Veto, pour la retrouver sur Facebook et sur Twitter, Laetitia. Bon, Laetitia, tout va bien. Deuxième partie de notre rendez-vous animaux. Bien sûr, je vous rappelle que notre vétérinaire nous accompagne comme chaque dimanche de 6h à 8h. Et pour cette deuxième partie, on va s'intéresser à l'occasion des journées portes ouvertes de la SPA, qui sont ce week-end, à l'adoption d'un animal, Laetitia.
Et nous allons commencer par Claire Brissac, qui est responsable du refuge SPA de Chamarande, qui est dans l'Essonne, et qui est sur la route en direction de Paris. Parce que figurez-vous qu'à Paris, place de la Bastille, des animaux sont proposés à l'adoption pour les Parisiens.
Ah, c'est sympa.
Et
ça.
Claire est avec sa petite camionnette en direction de Paris. On va pas vous prendre longtemps parce que les animaux vont attendre. Claire, bonjour.
Bonjour Claire.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors vous êtes un peu l'arche de Noé là.
Un petit peu, oui.
Alors, quels sont les animaux que vous proposez à l'adoption?
Alors nous emmenons là sur Paris des chiens, des chats et quelques rongeurs.
Ah oui, quand même. Mmh. Et plutôt petits chiens, plutôt grands chiens?
On va surtout privilégier des animaux qui peuvent s'adapter en appartement, parce qu'on est assez conscient que sur la région parisienne, les gens sont particulièrement en appartement. Donc on va privilégier des animaux qui puissent s'adapter, donc aussi bien des petits comme des grands.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans votre refuge ou qui vont venir tout à l'heure place de la Bastille pour adopter. Quels conseils donneriez-vous à de potentiels futurs acquéreurs?
Alors déjà, de bien réfléchir sur l'acte de l'adoption. C'est un investissement assez important, donc il ne faut pas que ce soit sur un coup de tête. Alors nous, on essaye d'aider, de guider les gens déjà vers l'animal qui va correspondre à leur mode de vie. Donc je leur dirais que c'est important de nous faire confiance. Alors bien sûr qu'il faut que quand on fait une adoption, il faut se faire plaisir. Une petite part d'égoïsme qui fait qu'on va être attiré par un animal. Et puis après, écouter les personnes qui sont là, qui sont professionnelles, et en plus, on a l'expérience professionnalise de plus en plus, et d'écouter ces personnes-là pour être sûr que l'animal qu'on va emmener chez soi correspond à notre mode de vie.
Bah, c'est pas évident quand même pour vous de... Vous connaissez pas la personne qui vient vous voir. Par contre, vous connaissez mieux l'animal que vous avez chez vous depuis quelque temps. C'est pas évident quand même de se dire, est-ce que ça sera la bonne personne pour le bon animal?
C'est pas évident. Maintenant, on a envie de faire aussi confiance aux futurs adoptants. Ils sont là pour faire une bonne action. Après, par contre, si vraiment on sent que c'est incompatible et que c'est pas du tout judicieux, on se donne le droit de refuser l'adoption. Mais C'est assez rare.
Est-ce qu'il vous arrive plutôt aussi de dire non, tel chien ou tel chat vous correspond pas, je vous conseillerais plutôt celui-là?
C'est quasiment notre quotidien. Les gens, nous par exemple, on a un site internet. Donc les gens, grâce à ce site, viennent au refuge et ensuite, on les dirige vers l'animal qui convient le mieux.
Souvent,
il nous faut confiance.
Souvent, ils voient une photo d'un animal, ils se disent « Ah, celui-là, il a l'air sympa. » Et puis en fin de compte, il ne correspond pas du tout à leur mode de vie.
Voilà, tout à fait. Et on ne peut pas réitérer la raison pour laquelle l'animal a été abandonné. Si par exemple il ne s'est pas adapté en appartement, on va éviter, ou alors il faudra des conditions bien particulières.
Oui, on évite quand même qu'il soit re-abandonné une deuxième fois.
Voilà.
Bien sûr.
Alors certains pensent qu'il n'y a que des animaux vieux ou à problèmes comportementaux dans les refuges. Qu'est-ce que vous leur dites?
On a de tout. Alors oui, on a quelques animaux à problème, mais quelques. Après nous, justement, comme je vous disais, on s'est professionnalisé pour les remettre sur circuit. En général, la responsabilité vient pas de l'animal, mais plutôt de l'humain qui a mal communiqué avec. Oui. Et puis après, on va avoir aussi bien des chiots, des jeunes chiens que des petits papis, oui.
Voilà, on a tous les âges. Toutes les races.
Ouais. Toutes les races. Du petit, parfois ça arrive, maintenant c'est rare, mais du chihuahua au dog allemand, ça arrive. Le chihuahua, c'est assez rare quand même.
Puis quand il arrive, il repart tout de suite. Non
voilà, tout à fait.
C'est vrai, ils sont populaires, les chihuahuas.
Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des abandons de chihuahua, ça c'est sûr.
Ça arrive. Maintenant, en général, les gens les assument un peu plus facilement.
Alors justement, vous qui êtes responsable d'un refuge, quelles sont les principales causes d'abandon dans votre refuge?
Je dirais principalement séparation,
Séparation dans un couple.
Entre couples, dans le couple, ouais.
Divorce.
Déménagement, un père arrive un peu plus loin, les allergies, les femmes enceintes. Donc là, on voit, quand je donne ces critères d'abandon, que l'animal, il n'est pas responsable de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut pas en général on met une étiquette en disant oh, l'espèce de tous les chiens ou tous les chats ils ont un problème. Non, c'est vraiment l'humain qui n'a pas pu gérer telle situation qui fait que puis on est vraiment dans une société de consommation, on prend on jette hein, ça clairement. Et ça ils nous ont plu un temps mais là on a des soucis donc on va enlever un problème, on va enlever l'animal.
Bon, d'un autre côté, on peut aussi comprendre certaines personnes qui préfèrent donner une seconde chance à leur animal parce que les conditions de vie ne sont plus du tout appropriées pour le chien.
Parfois c'est conseillé, parfois on en force l'abandon en disant là les conditions, vos conditions de vie ne permettent plus que l'animal soit dans de bonnes conditions donc on leur demande d'abandonner.
Alors Claire, nous avons Katia avec nous au 32-16. Katia qui veut témoigner ce matin. Bonjour Katia.
Oui, bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Voilà, ma petite question est la suivante. Voilà, j'ai adopté une petite chatte il y a à peu près, depuis le mois de février. Elle va avoir 8 mois.
Oui, ça se passe bien?
Oui, très très bien. Mais le seul problème, c'est je voudrais la rendre un peu plus sociable avec les gens qui viennent nous voir à la maison. Parce que dès qu'elle entend quelqu'un ou quoi que ce soit, elle s'enfuit sous le lit et on peut plus la déloger.
Alors ça va aller en s'améliorant avec le temps, mais faut absolument pas aller la déloger. Hein. Bon, souvent, vous savez, on connaît pas trop le passé des chats ou des chiens qu'on adopte, et ils peuvent avoir pendant quelques temps, pendant plusieurs mois, des peurs comme ça, des peurs de l'inconnu. Peur de l'inconnu, là, c'est des inconnus qui viennent chez vous et elle sait pas elle sait pas si c'est un danger ou pas. Donc, son réflexe, c'est de se cacher. Katia, petit à petit, elle va se sentir tellement bien chez vous que les nouvelles personnes qui vont arriver, elle va les observer de loin et petit à petit, elle va venir vers ces personnes. Mais alors, une chose très importante, Katia, c'est ne jamais aller l'extirper du coin où elle est. Ne jamais aller, voilà. C'est elle qui doit venir à vous ou aux invités et non pas le contraire. Ça, c'est important.
Hein, okay.
Et Claire, justement, vous avez, je pense que vous avez pas mal de chats à proposer à l'adoption. Comment faites-vous justement pour que les chats soient plus sociables avec les personnes pour ne pas être, voyez, Katia a un chat qui est sociable avec elle, mais peut-être pas avec les étrangers.
Alors, on va essayer de donner le plus de conseils au moment de l'adaptation dans le nouveau foyer. Donc, c'est-à-dire de commencer par réduire l'espace, là où il y aura sa litière et sa gamelle, et qu'elle se familiarise déjà aux odeurs, aux stimuli, au niveau du bruit. Et ensuite, quand l'animal commence à être à l'aise, on leur demande d'ouvrir l'espace.
Mais chez vous, dans le refuge, j'ai visité plusieurs refuges, les chats sont manipulés souvent. Ils sont caressés, laissés dans une cage comme ça, voilà.
Non, ils sont manipulés, ils sont en ce qu'on appelle en communauté, donc ils sont à plusieurs, voire une dizaine. Donc parfois ça se fait, ils se supportent, plutôt ils se tolèrent qu'autre chose. Après c'est vrai qu'on va avoir des chats plus craintifs que d'autres, mais ça on essaye de bien le signaler aux futurs adoptants en disant lui il va venir vers vous, il va être en demande de câlin. Par contre un tel va être en retrait. Maintenant on n'est pas dans la tête des chats et on ne peut pas tout savoir, mais on essaye vraiment de diriger au maximum les adoptants.
Katia, qu'est-ce qu'on vous avait dit sur le chat au moment de l'adoption?
Déjà, en fin de compte, j'ai été dans un refuge et après, le chat est placé dans une famille d'accueil parce qu'ils sont tellement trop nombreux que heureusement qu'il y a des familles d'accueil aussi pour les accueillir, comme on dit.
Oui.
Et voilà, et donc en plus, elle a été séparée de ses frères et sœurs parce qu'ils étaient quatre.
Oui.
Et donc, on m'a expliqué que ça se passerait doucement et que fallait prendre son temps avec elle.
Oui,
elle
est jeune. Elle est jeune, Katia. Vous inquiétez pas vraiment laissez-lui le temps de bien s'imprégner de son environnement et d'avoir confiance dans les gens et surtout n'essayez pas de dire aux gens ne venez pas chez moi parce que mon chat a peur des non au contraire accueillez de plus en plus de personnes chez vous si vous voulez et elle va venir petit à petit vers vos invités.
D'accord. Je voulais juste passer un petit message à tout
Allez-y,
le monde.
Katia.
N'achetez pas, adoptez, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux là-bas.
Oui, c'est vrai. Et Claire, Claire, vous avez combien d'animaux à l'adoption dans votre refuge?
J'ai une capacité de 120 chiens. On est toujours au maximum de notre capacité, malheureusement. Et puis, on va dire 80 chats, à peu près.
D'accord. Et donc, on vous retrouve à Bastille, là.
Oui, tout à fait.
Bon, écoutez, parfait. On va vous laisser poursuivre votre route avec vos animaux qui attendent, je pense, dans votre petite camionnette d'arriver à Bonport. Merci pour tout. Donc, je rappelle, vous êtes responsable du refuge SPA de Chamarandes. Et si vous voulez quand même voir les animaux qui sont dans cette camionnette, allez, place de la Bastille, aujourd'hui à Paris. Et
merci
sinon,
beaucoup,
rendez-vous
Claire.
Dans les refuges, merci bien sûr, partout en France. Merci Claire. Bonne route.
Merci, au revoir.
Au revoir.
7h20, Laetitia. On va poursuivre sur ce sujet. Bien évidemment, 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Laetitia, rappelons aussi que nos auditeurs qui passent à l'antenne ce matin repartiront avec le livre inéluctable, La parole des crocs.
Oui, c'est le dernier livre de Chani, qui est un jeune français qui a créé l'association Calaouette, qui a pour mission la sauvegarde des gibbons dans leur milieu naturel, c'est-à-dire en Indonésie. Et il nous parlera, on va lui téléphoner en Indonésie pour nous parler des actualités de cette association dont on parle depuis une dizaine d'années, dont la marraine est Muriel Robin d'ailleurs.
Voilà, inéluctable la parole des crocs, donc de Chani, c'est paru aux éditions Les Presses du Midi. On revient dans un instant, 32-16, on va poursuivre bien évidemment sur l'adoption avec entre autres le docteur Jasmine Chevalier qui est vétérinaire comportementaliste qui sera avec nous au standard. A tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Merci d'être avec nous, comme chaque dimanche matin, 7h22. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous de nous rejoindre sur RMC. Comme chaque dimanche entre 6h et 8h, c'est les animaux. Avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin, vous le savez, 2 heures entières dédiées aux animaux. C'est un rendez-vous exclusif RMC. Et puis ensuite, on changera d'univers avec l'automobile. Jean-Luc Moreau me rejoindra à partir de 8h avec toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Peugeot 208, 1 litre de PureTech 110. Comment choisir son huile sans se tromper? Et puis on évoquera les boîtes automatiques sur les véhicules. Faut-il craquer et s'offrir une voiture avec une boîte automatique? On verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc et nos invités. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on visite les refuges à l'occasion de ces journées portes ouvertes à la SPA.
Et surtout, on vous donne des conseils pour bien adopter votre animal. Et nous accueillons le docteur Jasmine Chevalier, qui est vétérinaire comportementaliste et auteur d'un livre... auteur d'un livre qui s'appelle « Mon chat a mauvais caractère ». C'est pas mal comme titre d'ailleurs, aux éditions Erol. Jasmine, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Bienvenue. Alors, donc on vient de voir que il fallait bien réfléchir avant d'adopter un animal. Quels seraient vos conseils, vous, au moment d'aller dans un refuge, parce qu'il y a des dizaines d'animaux qui attendent, est-ce qu'il faut se fier à son coup de cœur?
Alors, je pense que souvent le coup de cœur, ça fonctionne, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui sont adoptés et pour le bonheur de toute la famille. Je pense que c'est important d'avoir une réflexion préalable avant d'aller dans le refuge, c'est-à-dire de réfléchir à déjà l'espèce qu'on va choisir, est-ce qu'on prend un chat ou un chien, et puis mettre en adéquation le format de l'animal avec le coût. C'est vrai qu'un grand chien, ça coûte plus cher.
On n'en a pas parlé du coût aussi.
Eh oui, donc si on part pour adopter un chat, il est préférable de ne pas craquer devant le Saint-Bernard de 1 an pour aller vivre en appartement, parce que ça peut évidemment mal se passer pour l'animal et puis pour sa vie future avec lui. Mmh. Ensuite, des fois on a des historiques sur les animaux, on sait dans quelles conditions ils ont vécu. Je pense notamment aux chats qui ont vécu en jardin. C'est difficile de les réintroduire en appartement, ils peuvent souffrir d'un milieu... s'appauvrit en fait. Et puis après, il faut laisser parler son cœur parce que je pense que le premier contact et la première présentation a beaucoup d'importance. Et le coup de foudre, homme-animal, ça existe.
C'est comme dans un couple. Le premier contact est le plus important.
Et après, on l'accepte aussi avec ses défauts.
C'est sûr. Alors, comment, souvent les personnes se demandent comment les chats et les chiens vivent l'acte d'abandon. On pense qu'ils seront traumatisés à vie, qu'ils auront des séquelles psychologiques parce que on les a abandonnés.
Alors, c'est vrai que c'est une idée légitime. Ils
peuvent pas malheureusement nous dire comment ils le vivent, mais c'est vrai que par l'étude du comportement des animaux, on peut imaginer les répercussions que l'abandon a sur eux. Donc déjà, quand ils vivent dans le refuge, certains animaux, je pense aux chiens surtout, peuvent développer des troubles pendant qu'ils sont en boxe. Donc on peut avoir des animaux qui font un épisode dépressif, qui s'arrêtent de manger, ou qui développent des tocs, des activités stéréotypées, qui sautent d'un bord à l'autre du boxe ou qui aboient sans cesse.
C'est un signe de mal-être.
Là, c'est un signe de mal-être. Et c'est vrai que dans certains refuges, il y a des animaliers qui sont dédiés à un certain lot d'animaux. Et je pense que ce lien que les animaux peuvent faire avec l'animalier qui s'occupe d'eux ou avec certains bénévoles qui les voient de façon régulière est sans doute très, très important pour leur équilibre pendant leur vie au refuge. Ensuite, au moment de l'adoption, il y a grosso modo trois grosses catégories d'animaux et de réactions. Déjà, une énorme partie des animaux qui font preuve de résilience, c'est-à-dire que à partir du moment où ils se retrouvent dans une famille dans laquelle ils sont bien, ils reprennent leur vie affective et comportementale de façon normale. Mm-hmm. Et en quelques jours, on a l'impression qu'ils ont toujours vécu ici.
Il y a beaucoup de témoignages dessus, oui.
Oui, bien sûr, et ça se passe souvent comme ça. Ensuite, il y a des animaux qui auront des séquelles temporaires. Par exemple, chez le chien, on a beaucoup de troubles momentanés liés à l'attachement. Soit l'animal va s'attacher trop fort et trop vite à son propriétaire et avoir du mal à accepter sa famille et sa nouvelle maison. Donc on a des chiens qui ne restent pas seuls dans les premiers temps et à qui on doit réapprendre à rester seul, par exemple pour aller travailler. Ça, c'est assez typique. Et à l'inverse, des chiens qui peinent à s'attacher et qui du coup pendant quelques mois vont fuguer, par exemple.
Donc
On peut se dire que un attachement à une nouvelle famille pour un chien adulte qui change de groupe, ça prend quelques mois et il faut avoir de la patience. Et puis enfin, il y a des animaux qui ont des séquelles plus durables, ça a été évoqué par la directrice de refuge avant. Ce sont surtout les animaux qui ont été abandonnés au refuge à cause de leurs troubles du comportement, parce que ça existe. Et ceux-là, ils vont cumuler leur trouble initial avec les séquelles liées au passage au refuge. Et ce sont des animaux qui auront besoin plus d'une thérapie comportementale et qu'on s'occupe d'eux.
Jasmine Chevalier, vous restez avec nous. Il est bientôt 7h30. On va poursuivre avec vous dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, on vous invite à nous appeler. Vous voulez témoigner ce matin parce que vous avez justement adopté un animal de compagnie il n'y a pas longtemps. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, voilà, ça nous intéresse d'avoir votre témoignage. Le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas le numéro de téléphone. Laetitia, la météo, les infos. Et on revient. À tout de suite.
À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin, attention. En plus, voilà, moi je ne sais pas faire du cheval, hein, donc je vous le dis tout de suite, je vais me retrouver à terre en quelques minutes. Laetitia, c'est l'heure de notre question flash.
Oui.
En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Daniel. La question de Daniel que nous avons eue sur la page Facebook de Vos animaux sur RMC. Au passage, vous cliquez sur...
Like, j'aime.
Voilà. Ah oui, vous êtes complètement bilingue.
Ah oui, c'est sûr.
J'ai un grand terrain, Laetitia, où vivent deux tortues grecques. L'une très grosse, l'autre de taille moyenne. Le problème est que la plus grosse donne de grands coups de carapace sur le dos de la moyenne, puis monte dessus pour lui faire son affaire. Laetitia.
Oui.
Est-ce un comportement habituel?
Eh ben, c'est la saison des amours.
Ah bah oui, là...
Alors, la moyenne...
Et entre deux tortues...
Et voilà, la moyenne, c'est la femelle.
Tagaza, zoom, zoom.
Et la plus grosse, c'est le mâle, hein, Daniel.
Voilà. Ah oui.
Donc, alors peut-être que vous l'avez pas observé ce comportement avant, parce que la petite, enfin la moyenne, était pas assez grande, enfin n'était pas mature sexuellement.
Ah.
Or, elles mettent quand même, les tortues grecques, 10 à 13 ans, voire même 14 ans, avant d'être mature sexuellement. Des jeunes filles.
Eh bien, dites-moi. Oui, parce que ça vit vieux, en plus, une tortue.
Mais oui. Donc, peut-être que pendant 10 ans, vous avez eu une jeune fille qui n'intéressait pas l'autre tortue.
Et puis là, d'un coup, paf!
Et voilà.
Ça se réveille.
Et il faut savoir que les mâles sont très entreprenants avec les femelles et surtout très violents.
Non.
Si, alors ils commencent d'abord, ils vont autour de la femelle et ils hochent la tête, donc ça déjà ça va. Mais après ils leur mordent les pattes avant de leur donner des coups violents contre la carapace.
Non.
Le but est que la femelle soit sonnée, c'est le cas de le dire.
C'est pas vrai.
Et qu'elle ne bouge plus.
Ah oui.
Pour qu'ils fassent leur affaire justement.
Ah oui, parce qu'autrement elle veut pas.
Oui, alors on les entend de plusieurs mètres.
Ah oui, parce que ça fait du bruit.
Boum, boum, boum. Puis après on entend le mâle.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16,
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h35, le week-end des experts se poursuit. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue si vous venez d'arriver chez nous. Sachez qu'en ce dimanche matin jusqu'à 8h, c'est les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Et à partir de 8h, comme chaque dimanche, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, ce matin, nous évoquons l'adoption des animaux en allant dans un refuge. En plus, ça tombe bien puisque c'est la journée portes ouvertes à la SPA. Donc, vous pouvez aller un peu partout en France pour découvrir des animaux. Et alors, donc, vous pouvez nous appeler aussi pour témoigner parce que si vous avez déjà adopté un animal de compagnie, appelez-nous pour nous raconter comment ça s'est passé.
Voilà, et nous sommes toujours avec le docteur Jasmine Chevalier, qui est vétérinaire comportementaliste et auteur du livre « Mon chat a mauvais caractère » aux éditions Héros.
Et on a aussi Patricia qui va témoigner dans un instant.
Alors justement, on parle d'abord du chat. Quand on adopte un animal, on ne connaît pas son passé. Parce que bien souvent, il est adulte, c'est déjà un adulte. Quelles sont les règles pour que la cohabitation se passe bien? Alors pour commencer avec le chat, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, le chat, c'est un animal sensible qui a besoin de garder son autonomie dans sa maison. Donc, le jour où on ramène le chat à la maison, après un premier contact au refuge, on essaye de le laisser venir. On lui laisse découvrir son environnement. Si on a des enfants, on leur explique qu'il faudra pas sauter sur le poil du chat tout de suite et essayer de jouer avec lui. Le chat a besoin d'abord d'apprivoiser son espace en confiance pour se sentir à l'aise. Donc on lui organise un petit coin refuge, une petite cachette où il puisse se retirer s'il a besoin de pouvoir observer tranquillement. Et toujours, comme ça a été dit tout à l'heure, on le laisse venir. C'est au chat de décider quand les interactions et les câlins vont commencer.
Et alors s'il devient agressif, fuyant?
Alors, s'il devient agressif, fuyant, déjà, il faut se demander pourquoi. Peut-être qu'on a été trop entreprenant. Bon, je suppose que si on va dans un refuge et qu'on adopte un chat, c'est parce qu'il s'est laissé caresser dans le refuge. Mais on peut avoir des chats qui sont, même dans les semaines qui suivent l'adoption, très timides, par exemple, avec les visiteurs. Donc, c'est des chats qui sont sans doute pas très bien socialisés, qui n'ont pas trop l'habitude ou pas trop eu l'habitude dans leur vie antérieure qu'on ne connaît pas, d'avoir des contacts avec les gens. Et ces chats-là, ils restent très exclusifs, c'est-à-dire qu'ils font confiance à leur propriétaire, à leur famille éventuellement, mais dès que c'est une nouvelle personne, ils préfèrent s'isoler et fuir. Et je pense qu'il faut les accepter comme ça. Ils donnent beaucoup d'amour à leur propriétaire et à la famille dans laquelle ils vivent, finalement, qu'ils apprécient les visiteurs. Est-ce que c'est bien nécessaire? Du moment que on le laisse s'isoler, il n'y a pas de risque d'agression si on laisse le chat s'isoler et s'exclure du groupe quand il y a de la visite à la maison.
Et éventuellement venir petit à petit voir les nouveaux
petit
venus dans
petit,
la maison.
Ça met plusieurs mois en fait, et moins on l'embête, plus il prendra confiance dans le fait qu'on ne va pas forcer le contact, plus il aura tendance à venir explorer les nouvelles personnes, d'abord de loin. Et puis un jour, sur une personne immobile dans le canapé, il y aura quelque chose qui se passera et il viendra sur les genoux d'un visiteur, peut-être. Voilà, généralement, comment ça se passe.
Alors, comment préparer l'arrivée d'un chien adopté en refuge?
Alors, je pense que on a maintenant beaucoup de livres qui existent, donc je pense que c'est bien d'investir déjà dans des livres pour se préparer avant, surtout quand c'est son premier chien.
Oui.
Il y a quand même beaucoup de choses à connaître. Beaucoup de livres écrits par des vétérinaires qui pourront donner pas mal d'idées sur l'éducation des premiers jours.
Mais les grands, qu'est-ce qu'il faut pas faire justement?
Alors, briefer ses enfants quand on en a déjà, pour leur expliquer que l'animal va arriver, qu'on le connaît pas très bien, donc ce sera pas tout de suite Belle et Sébastien dès le premier jour. On lui installe un coin à lui, donc il s'agit d'un chien, on achète le panier et tout son petit matériel, et puis on choisit un endroit dans la maison dans lequel il pourra aussi s'isoler, parce qu'il a pas forcément sa chambre, mais il a besoin d'un petit coin. Important de pas trop modifier ses habitudes. Des fois, on est tenté de prendre 15 jours ou 3 semaines de vacances pour s'occuper à temps complet du chien qu'on vient d'adopter. Le problème va se poser après quand on retourne travailler et qu'on va le laisser seul. On en parlait tout à l'heure.
Le chien doit tout de suite rentrer dans les habitudes de vie de la famille, et notamment sur des périodes de solitude, parce que ça, c'est un problème qu'on a souvent avec des chiens adoptés.
Oui.
Il doit, dès les premiers jours, être habitué à rester seul, ne serait-ce qu'une demi-heure, le temps d'aller faire une course.
Mmh.
Ce qui est important avec un chien adulte aussi, c'est de reprendre une phase accélérée d'éducation de base, comme si on avait un chiot. On doit lui réexpliquer la propreté, déjà, parce qu'il a vécu en boxe. Donc, il faut prendre le temps de le sortir très régulièrement, de le féliciter quand il fait ses besoins dehors. Toujours avec des récompenses et jamais avec des punitions, parce que ça marche très mal, surtout pour
c'est
des animaux
sûr.
Qui, émotionnellement, sont pas forcément très stables au départ. On lui explique qu'on lui demande de s'asseoir, qu'on lui demande d'aller dans son panier quand on mange. Voilà, reprendre vraiment l'éducation de base, parce que le chien a besoin de savoir ce qu'on attend de lui. C'est vraiment un facteur d'apaisement fondamental pour un chien de savoir ce qu'on attend de lui en fait au quotidien.
D'accord. Jasmine, nous avons avec nous Patricia qui nous a appelé au 3216 et qui a adopté un chien dans un refuge. Elle veut nous en parler. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
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 Alors, racontez-nous.
Alors, donc ça fait environ 6 mois que j'ai adopté un chien, on va dire croisé, pincher, berger, on ne sait pas trop.
Pincher berger ?
Oui, c'est...
on m'a dit que c'était un pincher nain.
Parce que pincher, c'est tout petit et berger, c'est très gros. Donc
Bah, vous prenez, vous mixez les deux, Laetitia, vous secouez très fort. D'accord.
A priori, il venait des îles, de la Martinique.
Oui.
Et il était destiné, on va dire, à nourrir les requins.
Oui.
Donc,
C'est pas plutôt à La Réunion qui est.
Peut-être oui, peut-être. Dans oui. Ce cas-là, oui. Je sais que ça vient qui venait des îles, mais je sais plus où exactement.
C'est à La Réunion, oui, je crois bien.
Mm. Donc, ils se servent des chiens comme appât, c'est ça?
Oui, pour les requins.
C'est ce qu'on m'avait dit, oui. Mm. Oui. Donc, a priori, il aurait dans les 2 ans.
Mm.
Et donc, mon souci, c'est qu'il est extrêmement peureux. Mais il a peur de moi uniquement. C'est-à-dire que quand je suis présente dans la maison,
oui.
Il ne mange pas. Il ne bouge pas, il reste prostré dans un coin. Et dès que j'ai le dos tourné, il fait le fou, il joue avec les enfants, il mange.
D'accord.
Il fait,
voilà. C'est avec votre présence qu'il devient...
Ah oui, c'est
uniquement en ma présence. Pourtant, si je l'appelle, il va venir vers moi, il va être tout content. Mais si je ne lui parle pas, il reste dans son coin. Et c'est fort désagréable pour moi. Parce que je me dis, bah, il ne m'aime pas tant que ça, parce qu'avec les enfants ou avec mon mari, il joue. Mais pas avec moi.
C'est étonnant ça quand même.
Alors Jasmine. Je vous passe le bébé.
Ouais.
Alors déjà,
bon courage hein, Jasmine, on va vous laisser les clés.
Je compatis parce que je trouve que c'est une situation qui est vraiment hyper douloureuse,
oui.
D'adopter un chien et de vouloir lui offrir une deuxième vie et d'avoir un chien qui semble ne pas nous aimer. Alors plusieurs choses, la première c'est que c'est un cas assez classique sur des chiens qui ont été élevés dans des milieux très confinés, comme c'était dit tout à l'heure. Souvent ces chiens qui ont été élevés dans des boxes puisqu'ils étaient destinés éventuellement à servir d'appât aux requins, quand ils sortent et qu'ils se retrouvent dans une vie riche, avec beaucoup de stimulation autour, il y a un débordement de stimulation, ils ont du mal à gérer et ils ont peur parce qu'ils n'ont pas un niveau de connaissance du monde qui est adéquat avec la vie qu'on leur propose après.
Mmh.
Ensuite, ces chiens qui sont très peureux, donc éventuellement en syndrome de privation, ce qui était dit, ils ont beaucoup de mal avec les contacts directs. C'est-à-dire que quand on veut les prendre dans les bras, qu'on les regarde dans les yeux, qu'on se penche vers eux, même si c'est par amour, c'est assez angoissant. Et du coup, c'est des chiens qui sont plus à l'aise si on s'accroupit, on se détourne et on évite d'aller les prendre dans les bras, d'être très intrusif. Ça a peut-être un effet et c'est vrai que j'ai déjà entendu ça dans les familles, comme les maris sont souvent un peu plus désintéressés des animaux.
Oui, un peu plus détachés.
Les animaux viennent vers eux parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de contact intrusif. Et puis le dernier élément qui est vraiment très intéressant et parlant dans ce témoignage, c'est le fait qu'avec les enfants, ils jouent. On sait qu'un des meilleurs remèdes à la peur, c'est le plaisir. Et effectivement, quand on s'agite, quand on joue, on a beaucoup moins peur. Et ces chiens savent reconnaître que l'enfant est un mini-adulte, enfin qu'il est en phase juvénile. Ça joue, c'est agité, mais c'est très positif. Et effectivement, souvent, ça les déclenche. Et je pense que c'est très thérapeutique pour ce chien de vivre avec des enfants. Et ça, c'est vraiment un point très positif. Donc, pour essayer de l'aider, je pense qu'il faut essayer de peut-être modifier
sa façon de communiquer avec ce chien, de plus l'appeler à venir et de faire l'effort de pas aller le chercher, le prendre dans les bras quand il manifeste des signes d'inconfort, parce qu'il est sans doute pas habitué à ce qu'on le saisisse comme ça, et ça peut le gêner. Ensuite, je pense qu'on est vraiment typiquement dans un cas où faire appel à un vétérinaire pourrait aider beaucoup, beaucoup à intégrer ce chien bien dans sa famille et lui apporter du confort.
Très bien, merci.
Merci beaucoup, Jasmine, et merci à Patricia aussi.
Patricia, il faut faire l'enfant avec votre chien.
C'est ça. Merci Patricia.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et merci à Jasmine Chevalier d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Jasmine. Alors je répète, donc vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Mon chat a mauvais caractère aux éditions Erol. Et vous êtes vétérinaire comportementaliste. Merci pour tous ces conseils. Et allez adopter en refuge.
Laetitia, dans un instant, on va parler de la sauvegarde des gibbons et de leur habitat en Indonésie, avec Chani qui sera avec nous au téléphone depuis l'Indonésie. Hein. On va parler de tout cela avec lui dans une minute. Et puis, je vous rappelle que le 3216 est à votre disposition si vous voulez participer à ce rendez-vous animaux, comme chaque dimanche. 3216 ou animaux@rmc.fr. On est là dans quelques secondes. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h47, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Dans quelques instants, nous retrouverons notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Est-ce que vous avez déjà vu des pandas qui font du toboggan ? Les amis, c'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien, hein, comme ça, lorsque vous sortez du métro ou que vous prenez la voiture. Eh bien, nous, on a trouvé une vidéo où il y a des pandas qui font du toboggan.
Et c'est très drôle.
On en parle dans
et
un instant.
Et en même temps, très mignon.
Oui, c'est très mignon. On en parle dans quelques minutes. Mais auparavant, Laetitia, on va s'intéresser au nouvel ouvrage de Chani, qui est avec nous au téléphone. Inéluctable, la parole des crocs, paru aux éditions Les Presses du Midi.
Voilà, et Chani a créé l'association Calaouette. Chani, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je précise que vous êtes en Indonésie. Donc,
oui, c'est ça.
Alors, je crois que c'est dans le bon sens, dans le sens où vous êtes, c'est l'après-midi là chez vous.
Voilà, c'est ça. Il est presque une heure ici.
D'accord. Alors, vous avez fondé il y a 17 ans, donc Calaouette, une association de sauvegarde des gibbons en Indonésie, dont Muriel Robin est la marraine. Et votre vrai nom n'est pas Chani, mais Aurélien Brulier. Et Chani veut dire gibbon en thaï, hein, si je me trompe pas. Alors, parlez-nous d'abord des gibbons. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les gibbons en Indonésie?
Alors, il faut savoir avant tout que les gibbons sont des singes qui sont strictement arboricoles, donc ils dépendent de la forêt.
Oui.
Et le principal souci à l'heure actuelle ici, c'est cette déforestation massive, avant tout pour l'industrie de l'huile de palme. Donc, cette fameuse huile, toujours, qu'on retrouve dans les pâtes à tartiner, dans les shampoings, etc.
Oui.
À cause de cette huile, les terres sont occupées par ces plantations, et donc la forêt perd du terrain et disparaît, et donc avec aussi tous les animaux, dont les gibbons. Donc c'est vraiment le principal souci à l'heure actuelle. On perd quasiment 1,5 million d'hectares de forêt chaque année en Indonésie au profit des palmiers à huile.
Et en quoi concrètement le projet Calaouette je sais que vous avez deux centres de soins, deux refuges pour gibbons et pour autres animaux sauvages d'ailleurs, et même une réserve depuis janvier 2015.
C'est ça. Donc, en fait, l'association Calaouette, que j'ai montée maintenant, donc, comme vous le disiez, il y a 17 ans, vise dans un premier temps à récupérer tous ces animaux qui ont été capturés ou par des braconniers ou par des ouvriers de ces compagnies d'huile de palme, justement, qui, au moment où ils détruisent la forêt, capturent ces animaux. Le rôle de Calaouette, c'est d'essayer de les réhabiliter pour les relâcher ensuite dans des zones protégées. Donc, à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, on a plus de 270 gibbons sous nos soins dans les deux centres de Calaouette, donc c'est énormément d'animaux. Et puis par la force des choses, maintenant on est amené à intervenir pour aider d'autres animaux. Ça va des ours malais, en passant par les crocodiles, en passant par des pitons, enfin tous les animaux en fait qui sont aussi victimes de la déforestation.
Oui.
Et puis en plus de tout ça, il y a aussi une initiative pour essayer de sauver les gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres, donc essayer de protéger cette forêt. Et depuis 2012, j'ai la nationalité indonésienne qui me permet d'acheter des terrains et donc de créer des réserves à Bornéo et à Sumatra. Il y a sur deux sites à l'heure actuelle où tous les ans on achète de la forêt. À Sumatra, on est à plus de 240 hectares. de forêt achetée, donc voilà, sécurisée avec des patrouilles équestres notamment pour protéger des braconniers et où tous les gibbons, tapirs et autres animaux sauvages peuvent enfin vivre en sécurité.
Et alors ces animaux que vous soignez dans vos centres de soins, vous les relâchez après dans ces réserves ? Ils sont pas trop imprégnés par l'homme ?
Le but ultime, c'est de les relâcher dans la nature. Alors, c'est très compliqué avec les gibbons, non seulement parce qu'ils sont imprégnés dans un premier temps, donc c'est toujours un long processus de réhabilitation. Là, par exemple, le mois dernier, on a relâché des animaux à Sumatra. Ils étaient à Kalawet depuis 8 ans. Il a fallu 8 ans avant qu'ils puissent être relâchés dans la nature, à tel point, voilà, c'est vraiment difficile, en fait, de les réhabiliter. Et le problème, c'est qu'on a de moins en moins de forêts et que, moi, mon objectif en créant ces réserves, c'est pas forcément d'acheter des forêts pour relâcher de nouveaux animaux à l'intérieur, mais avant tout de sauver les animaux qui se trouvent dans cette forêt de manière naturelle pour pas qu'ils disparaissent. Donc on se retrouve avec plein de gibbons, notamment prêts à être lâchés, mais on sait pas trop où les relâcher parce que justement ils manquent leur habitat, la forêt.
Alors vous dites dans votre livre, le soutien des populations, je le cultive, sans lui ma démarche n'a pas de chance. Est-ce que votre combat pour les gibbons est bien accepté localement ?
Ah, bien accepté, oui. Maintenant, depuis 17 ans en Indonésie, les gens ont bien vu que voilà, mon seul combat, c'était les gibbons. Au début, il y a toujours des suspicions. On se demande si le farfelu de français, là, est-ce qu'il vient vraiment que pour les gibbons ou est-ce qu'il fait autre chose derrière ? Est-ce qu'il va chercher de l'or ? Donc, du trafic, exactement. Donc, au moins, je suis arrivé j'ai gagné leur confiance. Ensuite, l'un des projets de l'association, c'est aussi de sensibiliser les populations locales. C'est pour ça qu'on a la radio Kalawet ici, que j'ai créée en 2003.
Ah oui, alors vous avez une radio locale Kalawet FM, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, qui est destinée aux jeunes, où c'est une radio de divertissement, mais quelle que soit l'heure de diffusion et l'émission, il y a toujours 4 à 5 messages, comme ça, sur les gibbons, la forêt, etc. Plus de 70% des animaux qui nous sont amenés, nous sont directement amenés par les auditeurs. Donc ça marche très très bien, on est soutenu par tous ces auditeurs. Et puis depuis l'année dernière, Kalawet a son émission de télévision sur la première chaîne info indonésienne, qui s'appelle Metro TV. Et donc pour la première fois, les Indonésiens dans tout le pays peuvent suivre nos aventures où on va sauver justement des gibbons, des ours, des crocodiles et on peut ainsi informer sur les problématiques qui se passent ici parce que parfois on reçoit des équipes de tournage pour des télévisions européennes, etc. parce que je suis français et que Kalawet est une association française. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de faire passer le message ici. C'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment aux médias indonésiens pour que notre message soit entendu. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats parce qu'encore une fois, c'est pas un foot français tout seul. C'est une équipe avec lui et puis c'est tous ces milliers d'Indonésiens qui sont maintenant derrière nous.
Alors dites-nous comment nous, Français, on peut vous aider ? Comment on peut aider l'association ? Je crois qu'on peut adopter un gibbon.
Voilà, vous pouvez d'abord aller sur le site de l'association, kalawet.org.
Et il y a toutes ces vidéos justement.
Voilà, toutes les vidéos de sauvetage, etc. Et puis vous pouvez parrainer un gibbon, donc le suivre pendant tout son processus de réhabilitation. Vous recevez des nouvelles tous les mois avec des photos, etc. Donc c'est vraiment... quelque chose d'interactif. Et puis, vous pouvez aussi télécharger l'application Kalawet sur votre téléphone. Vous recevrez des alertes à chaque sauvetage. Vous serez complètement immergé dans notre quotidien ici, même si vous êtes à des milliers de kilomètres de l'Indonésie. C'est vraiment un moyen d'être au plus proche de nous et puis de relayer l'information, parce qu'avant tout, c'est relayer l'information, faire attention sur les produits qu'on consomme pour éviter au maximum l'huile de palme, parce que ce rejet de l'huile de palme en Europe, pour nous, ici, nous sert vraiment, puisqu'on voit, par exemple, des grands patrons de compagnies qui changent leur comportement, qui pourraient dévaster toutes leurs concessions et qui décident d'en protéger une partie, parce que, justement, ils sont sensibles à ce qui se dit, notamment en Europe, sur ce boycott de l'huile de palme. Donc, vous, consommateurs, vous pouvez vraiment nous aider.
Il faudrait aussi que des patrons de l'agroalimentaire viennent vous voir et viennent parrainer votre association.
Ça pourrait être une des solutions, mais je voudrais quand même rester libre de... Voilà. Alors après, il y a d'autres problèmes qui rentrent en jeu.
C'est sûr. Alors sinon, vous pouvez aussi acheter le Wawa, c'est la peluche. Elle est super, cette petite peluche de l'association, pour 30 euros. Et en même temps, vous faites une bonne action pour l'association et vous faites en sorte que les gibbons soient sauvés. Merci beaucoup,
Chani.
Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Merci. Vous êtes l'auteur... votre dernier livre s'appelle Inéluctable, la parole des crocs, éditions Les Presses du Midi.
Ah oui.
Et sinon, allez
avec la gueule d'un crocodile ou je ne sais pas ce que c'est là, mais ça fait vraiment flipper.
Oh non, moi je trouve ça très mignon, mais bon.
Vous trouvez ça très mignon.
Ah oui, mais moi j'adore les reptiles.
Avec la collection de dents blanches là qui sont là.
Eh ben oui, mais ils sont peut-être sponsorisés par une marque de dentifrice.
Hein. Je pense. Ouais. Merci Chani en tout cas.
Je vous invite aussi à aller sur le site de Calaouette. Calaouette, ça s'écrit Calaouite.org.
Parfait. Laetitia, pour se dire au revoir, notre petite vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Bon,
oui.
Des pandas, on n'en voit pas tous les jours. Hein.
Mais oh, si, moi, tous les dimanches matins, vers 8h, il arrive à côté de moi,
mon
panda préféré.
JL. JL, Jean-Luc Moreau.
Oui.
C'est super. Bon, bref.
Il est trop mignon, c'est vrai qu'on dirait un panda.
Oui, c'est vrai. Mais bon, à part Jean-Luc, il n'y en a pas énormément. Hein. Et puis Jean-Luc est habillé, alors qu'un panda, en général, est tout nu. Hein. On est d'accord.
Il est à poil, le panda.
Oui, il est à poil. Ouais. Merci. Et donc, alors il y a un truc rigolo, c'est qu'on vous a posté une vidéo sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, où on voit des pandas qui font du toboggan. Mmh. Voilà, et c'est très drôle, parce que en fait au début ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, mais après
ils s'éclatent.
Voilà, ils font des petites cabrioles et tout, c'est trop mignon. Des pandas donc qui font de la balançoire, mais du toboggan. C'est à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et au passage, vous cliquez sur j'aime. Vous faites du toboggan de temps en temps, Jean-Luc?
Assez rarement.
Bah oui, mais je comprends, hein. C'est vous avez passé l'âge.
C'est le toboggan qui manque, c'est pas l'envie. Hein.
Ah oui, oui, ah ouais, c'est ça. Bon, Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain.
Oui, je vous embrasse tous, un bon dimanche et à la semaine prochaine.
Et dans un instant donc, Jean-Luc Moreau sera là pour 2 heures dédiées à l'automobile avec vos questions auto. Et puis on va se poser la question, faut-il craquer pour les boîtes auto?
Ouais, faut-il adopter une boîte automatique puisque c'est la journée? Voilà. Une boîte qui passe les rapports tout seul.
Alors aux États-Unis, tout le monde a ça.
Depuis longtemps. C'est vrai que les Européens ont été assez réticents.
Ouais.
La principale raison, c'était l'augmentation de consommation. Vous savez, chez nous, on est très
chasse au gaspillage.
Faut pas que ça consomme beaucoup. Mais les boîtes automatiques aujourd'hui ont beaucoup progressé. À tel point, vous verrez, on aura un des directeurs de Peugeot qui nous racontera qu'ils sont même un peu dépassés par les événements tellement il y a une demande forte sur les boîtes automatiques.
On en parle dans un instant donc après la météo et les infos. Très bon dimanche à vous toutes et à vous tous. À tout de suite dans quelques minutes. On sera là avec Jean-Luc Moreau.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.